En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
Quel lien peut-il y avoir entre le pays d'un père et le pied d'une danseuse ? Quel lien entre un Vietnam lointain et l'obscurité d'un corps sur scène ? Ces points d'interrogation sont comme des petites boussoles pour Emmanuel Wynne, qui au moment de cette rencontre en sol majeur venait de créer Nuée au théâtre de Nîmes, au sud de la France. Au pays de cette nouvelle errance identitaire, vous allez l'entendre, le discours se cherche et n'apparaissent sous vos yeux que des fragments de corps, de biographie, d'histoire, de langue et de lumière. Le discours se cherche, c'est vrai, le corps toujours dans tous ses états. Danseuse, chorégraphe, enseignante, la pensée d'Emmanuel Wynne s'est forgée auprès de l'iconoclaste Trisha Brown, du danseur de Buto Akira Kazai et du philosophe Merleau-Ponty. Des questions dans cette rediffusion ? Bonjour Emmanuel Wynne.
Bonjour.
Est-ce que Yasmine. Prince vous donne envie de danser ?
Oui, j'aimais, mais j'aime toujours beaucoup Prince, et particulièrement Kiss. Ça donne possiblement envie d'embrasser aussi, mais moi surtout envie de danser. Ouais.
Est-ce qu'il fait partie, j'ose le mot car il est important pour vous, de votre philosophie, Prince ?
C'est plus une icône que j'aime beaucoup encore convoquer à cause de sa sensualité aussi, de son genre trouble entre homme et femme, cette petite barbichette. Voilà, et son énorme talent de chanteur et surtout danseur.
Alors, je sais que votre tête de danseuse fait des échauffements régulièrement, mais on va voir si votre corps participe aussi à notre danse en sol majeur.
Est-ce que vous êtes quelqu'un du dedans ou du dehors?
Je pense que je suis des deux, en fait. Et oui, on peut dire que la philosophie peut donner... Enfin, le fait d'avoir étudié après mon bac à 17 ans, j'ai étudié en même temps la danse et la philosophie. J'étais à Paris 1, donc... très très tournée vers ce que pouvait être une pensée, mais ça se partageait. Donc c'était du dedans-dehors quand même. Et puis les studios de danse, qui étaient aussi un dedans, mais qui étaient pour le corps, pour une forme d'expansion et d'apprentissage.
Mmh. Alors il me semble qu'avec Nuée, donc cette nouvelle chorégraphie qu'on va découvrir, vous faites vôtre le concept de destinérance de Jacques Derrida. Expliquez-nous ça.
Oui, je suis retournée dans le pays paternel et j'allais sur des traces, bien sûr, autant les traces de ce père décédé en 2018 que sur les traces d'une première pièce de danse, Mua. Et je suis allée chercher des choses, des endroits où il est né, où je n'étais jamais allée, près de la frontière cambodgienne, où les endroits où il a vécu étaient au collège, dans le delta du Mékong, ou le quai précis d'où il est parti en 1950. Et particulièrement près du Cambodge, à Rajia, là où il est né, je n'avais plus aucune adresse. Et j'avais très peur de cette rencontre avec la ville sans rien d'autre, en fait. Et au lieu de m'écrouler, au lieu d'être arrêtée par ça, j'ai eu plutôt un sentiment de continuité avec l'extérieur, avec le dehors, et un sentiment qu'en fait, le fait de continuer de chercher et d'avoir trouvé de cette façon, c'était finalement le but du voyage. Et que donc, dans cette errance, il y a aussi une destinée, une destination. Enfin, j'entends comme ça le concept de destinérance de Derrida.
L'errance aura été apparemment multiple pour vous qui êtes donc né en France, à Châteauroux, entre une branche, on va dire, berrichonne et une branche vietnamienne.
À Argenton-sur-Creuse.
Oui, bah écoutez, bienvenue, j'ai de la famille aussi là-bas. On a peut-être des liens de parenté, qui sait. En sol majeur va donc s'autoriser néanmoins une petite errance du côté de Duras.
Je ne savais pas que vous existiez. Calcutta est devenue pour moi une forme de l'espoir.
Oui, de façon presque incontournable, nous voilà dans l'univers d'India Song. Je rappelle le film 2 Duras, adapté de son roman Le Vice-Consul. Qu'est-ce qui représente pour vous ce film, Emmanuel Huyn ?
Beaucoup de choses, et j'y reviens tout le temps. J'aime beaucoup la dissociation entre l'image et le son. Ça a été très inspirant pour moi, cette dissociation, tout en ayant les voix de Michael Lonsdale, de Delphine Seyrig, de Marguerite elle-même, Duras...
Des voix qui ne sont pas du tout synchrones, voilà, hein, à l'arrivée dans le film.
Exactement, on voit des actions, peut-être même des paroles, mais ça ne correspond pas à ce qu'on entend. Donc cette libération, on va dire illustrative, entre ce que le corps fait et ce qu'il dit, c'est extrêmement libérant, même pour la danse, surtout quand on a envie d'utiliser du texte sur scène, comme j'ai pu le faire plusieurs fois. Et cette façon extrêmement chorégraphique de rentrer dans le chant, d'arriver, par exemple, de Delphine Seyrig, face à lui, face à Michael Longsdale, cette façon de s'enlacer, de danser, cette façon de gésir, d'être reposé, cette façon d'avancer dans le jardin, bon, c'est purement chorégraphique, donc oui, c'est une fascination, un amour, même s'il s'agit voilà, de Calcutta, c'est pas le Vietnam de Marguerite, mais tout est là, en fait.
C'est quand même l'Asie, c'est quand même une vision sans doute occidentale de l'Asie. Mmh. Vous diriez que c'est votre première émotion esthétique sur l'Asie ?
Oh, pas du tout. C'est venu assez tard, India Song. Non, je ne me souviens plus. Bah, je dirais la première plongée, c'est peut-être regarder mon père et de me dire « Ah oui, bon, c'est ça. Bon, » En même temps, ça ne s'est jamais posé comme ça, puisque je l'ai toujours eu devant moi. Et la première plongée, en fait, en tout cas l'itinérance vers l'Asie, c'est une première tournée au Japon avec Hervé Robb en 1994.
Oui, parce que dans votre cursus de danseuse, donc vous avez fait philo, comme vous le disiez, philo et danse parallèlement, vous êtes construite, si j'ose dire, corps et âme, main dans la main. Votre cursus de danse se fait d'abord aux côtés d'Hervé Robb et d'Odile Duboc, qui sont deux grandes figures de la danse contemporaine. Et puis, parce que l'horloge tourne, on va le dire vite, vous faites une rencontre qui est déterminante dans votre trajet, Emmanuel Huyn, auprès de l'insensée Trisha Brown, novatrice du mouvement postmoderne à New York, qui aura souvent dansé dans des endroits insolites en trouvant son propre langage, capable par exemple de danser en dessinant.
Je fais ça comme sur le dessin. Je collectionne les mouvements et les gestes. Je me coince une craie entre les orteils des deux pieds, sur le pied gauche et sur le pied droit. Et quand je suis prête, que je sais ce que je dois faire, c'est le moment le plus amusant. J'espère que je ne vais pas tomber. Voilà.
Emmanuel Huyn, que vous a appris Trisha Brown, donc cette iconoclaste de la danse avec laquelle d'ailleurs vous avez eu des entretiens qui ont été publiés aux presses du réel.
Déjà merci, c'est émouvant de réentendre Trisha Brown parler, cette voix si vive, si joueuse aussi. Qu'est-ce qu'elle m'a appris ? Je dirais énormément de choses, peut-être à regarder et bien sûr aussi à articuler une danse. J'ai été spectatrice, je crois, en 1987 au Théâtre de la Ville, comme beaucoup de gens, de Newark et peut-être Set and Reset, un de ses tubes. Et je crois que c'est ma colonne vertébrale qui a été en empathie avec celle de tous ces danseurs, et elle-même dansait. Donc il y a déjà une empathie physique à voir cette danse. Et j'étais une danseuse curieuse. Curieuse de savoir comment les autres travaillaient, principalement elle, et je me suis risquée, j'ai osé lui demander une interview, et ça a commencé dans les sièges de la ferme du Buisson, en 1992, je demande, est-ce que je peux avoir trois quarts d'heure avec vous demain ? J'ai préparé des questions, je suis une danseuse française, elle a été adorable, elle m'a dit oui, et ça a commencé comme ça, et elle m'a dit peu de temps après, oh, vous me posez des questions que peu de gens me posent, ça m'intéresse.
Mais... C'est intéressant, hein, ce dialogue entre vous, entre une chorégraphe et une danseuse qui se cherche à ce moment-là et qui va être en crise, vous nous en parlerez peut-être. Qu'est-ce que vous comprenez lorsqu'elle vous dit à propos de la séparation entre le corps et l'esprit, parce que ça c'est une question qui vous agite, elle vous dit « la chorégraphie est un atterrissage, la tête la tour de contrôle, le corps l'avion ».
En tout cas, ça correspond vraiment à Trisha Brown qui était très organique, donc c'est une danseuse cérébrale qui réfléchit, mais la pensée elle passe dans le corps. Il y a une décision bien sûr, mais l'atterrissage dont elle parle, c'est qu'elle va lancer quelque chose et après elle ne sait pas bien ce qui va advenir en fait. On voit bien qu'elle se propose un jeu et qu'ensuite on va voir comment ça atterrit en effet, comment ça se propage et qu'est-ce que ça va produire. Elle avait énormément d'humour en plus.
Vous cherchez à ce moment-là, vous notez notamment dans vos carnets quelque chose qui évidemment a attiré mon regard aujourd'hui, que vous créez Nuée. Vous notez Vietnam being unified, vers le Vietnam unifié, uni. Est-ce que vous vous souvenez de ça?
Alors oui, je ne sais pas où vous avez lu ça, mais moi ça me parle vraiment.
Quelle était la crise en fait que vous traversiez, vous, à ce moment-là, jeune danseuse? Qu'est-ce qui ne fonctionnait plus pour vous à ce moment-là?
En fait, ça faisait peut-être 5 ou 6 ans que je... Voilà, que je dansais très très activement avec 2, 3. Je travaillais aussi beaucoup avec Nathalie Colantès à l'époque. Et j'avais beaucoup, et j'aimais avoir les projections des chorégraphes sur moi, sur mon corps. Mais de plus en plus, je trouvais les projets soit bavards, soit vides. Là, je suis un petit peu sévère parce que c'était pas à ce point. Mais je pense que j'étais arrivée à saturation. Et je me disais, mais en dehors de leur projection, qu'est-ce que mon corps, qu'est-ce que je peux dire? Et j'ai eu envie d'une tabula rasa qui m'a amenée au Vietnam parce que je vivais aussi une crise personnelle.
Identitaire aussi, vous diriez?
Tout à fait, parce que je me suis aussi demandé, ben voilà, je me vis comme française, mais en fait, je vois bien que j'ai quand même pas une tête classiquement française, on va dire. Et on m'a beaucoup demandé, pas à Châteauroux où j'ai été élevée, mais à Paris, à partir du moment où je suis arrivée pour étudier, d'où est-ce que tu viens? Et quand je répondais de Châteauroux dans le Berry, on me disait « Ah non ?» Et je disais « Ben si, ben bon, voilà. » Et donc il a fallu aussi que j'aille voir qu'est-ce qu'il y avait avant moi. Donc je suis partie...
L'origine.
Oui, exactement. Et peut-être pour finir de répondre sur « Vietnam being unified », ce premier voyage, c'était un premier voyage...
En 94?
Oui, à unifier la tête et le corps. Et c'est vraiment... J'ai analysé aussi que le Vietnam avait fonctionné comme un coup, C-O-U, le coup qui relie le corps à la tête. C'est-à-dire, c'est un voyage qui a unifié le biographique, le biographème et le professionnel, et a unifié les questions d'une certaine façon, et a fait que le transit tête-corps s'est mis en marche d'une façon... qui ne pouvait pas revenir en arrière, même si bien sûr j'étais unifiée, je n'étais pas coupée. Mais quelque chose était coupé entre l'image que les autres projetaient sur moi et que j'adorais servir, jusqu'à me marier tout en aimant cette personne d'ailleurs. Hein,
c'est... Avec un Français?
Avec un Français, oui. Et voilà, cette unification a permis un jeu personnel, J-E, et des décisions nouvelles en fait. Mmh.
Donc grâce à une bourse de la Villa Médicis, hors les murs, vous arrivez à Hanoï?
Oui,
en 94. Vous arrivez en même temps en parfaite étrangère. Qu'est-ce que vous savez dire en vietnamien, Emmanuel Huynh?
Je ne sais pas dire grand-chose en vietnamien. Pour nuer, j'ai essayé de réapprendre. Voilà, c'est difficile. Je sais dire mon prénom, Tan Loan, qui veut dire oiseau bleu. Je sais dire le prénom de mon père, Tan Van, nuage bleu, le prénom de mes frères et sœurs. Je sais compter... jusqu'à combien aujourd'hui? On va dire qu'aujourd'hui, je sais compter jusqu'à 3. Il y a un mois, je comptais jusqu'à 5. Mot hai ba. Et c'est même pas le bon accent. Et par exemple, moi, ce que je dis mua, qui veut dire danse en vietnamien, c'est plutôt mue. Mais il y a aussi le mue qui descend. Je pense que je le fais pas bien. Et qui veut dire pluie. J'arrive pas à beaucoup retenir cette langue parce que mon oreille n'entend pas tous les tons.
Suite à ce premier voyage au Vietnam, vous créez Emmanuel Huynh Mua en 95. C'est votre premier solo où les 10 premières minutes se passent dans l'obscurité la plus complète. Et je me posais la question, mais qu'est-ce que fait la danseuse pendant ce temps-là dans le noir?
Eh bien, déjà elle tâtonne, elle essaye d'avancer dans le noir et comme tout le monde, elle n'y voit rien. Moi, j'ai quand même des petits repères que le spectateur ne voit pas parce que j'ai ce qu'on appelle du black foil sur lesquels je me place pour espérer que le 1% de lumière que Yves Godin, l'éclairagiste ou le producteur de noir, envoie sur moi permette de trouver ma peau comme surface et qui fait qu'on voit des formes fantomatiques pendant ces... Alors, c'est pas 10 minutes, c'est 20 minutes fantomatiques. Et alors... En fait, j'ai l'impression, au fur et à mesure d'être dans la pénombre, de voir plus. Et ce n'est pas une métaphore philosophique. À cet endroit, À part ça, je dirais que j'ai rendez-vous avec moi-même dans cette partie noire. C'est toujours un moment où je me dis, alors, où en es-tu dans ta vie, artistique et personnelle? Donc c'est comme une pièce étalon, parce que j'ai eu rendez-vous avec moi-même en 94, et quand je la rejoue, eh bien, je retombe là-dedans, et donc, c'est une chose que j'aime beaucoup.
Il y a le noir, et puis à un moment donné, une forme apparaît, un corps de femme, dont on ne peut pas vraiment distinguer le visage, et puis tout à coup, elle est de dos, elle est nue, elle me semble nue, et puis tout à coup, elle disparaît à nouveau dans le noir. J'ai envie de reprendre la question que vous a posée, je crois, Trisha Brown, sur cette chorégraphie Mua. À l'époque, elle vous a demandé pourquoi danser les yeux fermés.
Je danse les yeux fermés dans la deuxième partie de Mua, au moment où j'ai été me vêtir d'une robe transparente sous laquelle, en effet, je suis nue. Eh bien, j'exécute cette partie-là, les yeux fermés, comme si le voyage du Vietnam, je le rejouais dans cette diagonale, puisque c'est une diagonale, et je suis à tâtons, c'est mon corps qui tâtonne sur lui-même, comme pour découvrir, on va dire, ce pays. Donc c'est le corps comme pays, et c'est le trajet, les yeux fermés.
Avant de vous rejoindre sur le plateau de Nuée, Emmanuel Huynh, il faut nous raconter un peu votre père et son Vietnam. Qu'est-ce que vous saviez de lui, de son père aussi et de son grand-père?
Je savais qu'il était arrivé en France à l'âge de 16 ans et demi. Enfant, je savais que son père avait eu envie de l'envoyer en France. Je pense que je n'avais pas beaucoup de détails. Les détails sont arrivés peut-être au fur et à mesure de la vie et sans doute plutôt à la fin de sa vie, où il a eu besoin envie de nous raconter plus précisément les choses. Il nous a laissé un livre.
Un livre écrit par lui ?
Oui, un livre écrit par lui, aidé par Bénédicte Duplessis, qui a en fait pris en note les choses qu'il lui a dites et puis il relisait les épreuves. Et précisément ce qu'on a compris, mes frères et sœurs et moi-même, c'est que c'est sur le fond d'un désir non assouvi de son propre père de partir en Europe, comme ça arrivait beaucoup dans la petite bourgeoisie vietnamienne. Et en fait, mon grand-père vietnamien, qui était lui à moitié chinois, son père chinois ne l'a pas envoyé parce qu'il avait déjà perdu 4 garçons. Et il n'a pas désiré envoyer son 5e, qui est donc mon grand-père, qui a vu ses amis partir et revenir, on va dire, élevé en termes d'éducation et élevé sans doute socialement ensuite. Et c'était vraiment un désir de faire partir le premier garçon qui était mon père. Donc ça, je l'ai plus compris grâce à ce livre et puis aussi grâce à ce voyage.
Car vous avez fait ce voyage pour... Alors, pourquoi au fond? Pour enquêter sur ses lieux de vie à lui?
Alors, le voyage de février 2020, juste avant que tout ne se
referme.
D'ailleurs, au Vietnam, ça commençait déjà, ils avaient fermé la frontière avec la Chine. Il n'y avait pas d'école en route. J'ai pu visiter le lycée de mon père à Saigon, mais vide. J'avais envie d'être physiquement dans les endroits pour essayer de trouver ce qu'il avait pu sentir et voir.
Alors, qu'est-ce que vous avez senti à Hanoï, par exemple ?
Hanoï, quand je suis arrivée en 94, j'ai senti que j'étais soutenue. C'est-à-dire, l'humidité qui m'a étreint en arrivant, c'était utérin, c'était totalement une expérience de...
Liquide amniotique.
Oui, de renaître, ou de reconnaître. Et Saigon, j'ai eu du mal à descendre. En 94, j'ai mis 2 mois à descendre. J'avais prévu de prendre mon temps pour descendre. Et plus je descendais dans le pays, Da Nang, Hue, Hoi An, plus j'avais mal au crâne.
Parce que Saigon, c'est le berceau familial.
Oui. en tout cas d'où il est parti. Mais lui, il est né en frontière cambodgienne. Ils ont surtout vécu dans le delta du Mékong. Et c'est plutôt lors de ce voyage-ci, en 2020, que j'ai eu l'impression de pouvoir pleinement regarder les endroits où il est allé. Mon cousin m'a amené dans des pagodes pour me montrer les urnes funéraires où repose, en cendres, cet arrière-grand-père chinois. Mon grand-père vietnamien, j'ai vu l'église catholique où ses cendres sont gardées. Donc les pagodes, les bras du Mékong et je dirais le golfe de Thaïlande où se trouve la ville où il est né.
Et ça, cette prise de contact avec ces lieux d'origine, ça travaille votre colonne vertébrale quand vous y êtes?
Alors je pense que ça travaille ma température interne, mais parce que c'est une question même de température tout court. En Asie, cette humidité dont beaucoup de gens se plaignent, j'ai l'impression qu'elle me permet d'être vraiment danseuse profondément, enfin, ou de reconnaître que c'est la situation atmosphérique, la bonne température pour moi pour danser. C'est parce que je suis dans un état dansant de façon permanente.
Quand vous démarrez cérébralement l'aventure de nuée, qu'est-ce que vous avez en tête? Quels sont les premiers éléments qui apparaissent pour vous?
Bon, déjà, je pars parce que un an avant, j'ai décidé de candidater à la ville à Saïgon, le programme porté par Jean-Philippe Rousse, qui dirigeait l'Institut français à Saïgon. Eh bien, j'ai perdu la question.
je vais la ramasser. On chemine ensemble. Je vous demandais quels premiers éléments vous avez travaillé.
D'abord, la douleur de la disparition de ce père en juin 2018. Donc, parce que c'était trop dur, parce que ça faisait trop mal, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose, en fait, le transformer. Et c'était aussi un rendez-vous avec ma propre trajectoire et les corps qui m'habitent depuis toutes ces années où je danse. C'est-à-dire que c'était à la fois un voyage vers lui, pour lui, mais un voyage aussi sur ma propre trajectoire depuis lui, c'est-à-dire ma trajectoire de femme, de danseuse. Et cette question d'être habitée par d'autres corps, le corps de Trisha Brown, le corps d'Akira Kassai aussi, ou le corps de l'amour. Ça a été aussi vraiment une question qui pouvait se laisser être au Vietnam comme un endroit de recherche de toutes ces habitations de moi-même.
Mmh. Puisqu'on est sur cette question des origines, Emmanuel Nguyen, pourquoi ce mot « nuée » ?
Donc, mon père s'appelait Tan Van, qui veut dire « nuage bleu ». Et longtemps, j'ai cru que cette pièce s'appellerait « nuage ». Et puis au bout d'un moment, je me suis dit « mais ça va m'obliger à parler trop vite ». Du père, même si bien sûr vous voyez bien que c'est central, mais il y avait beaucoup d'autres choses, ma propre trajectoire, le corps acupuncture, il était acupuncteur, je voulais agrandir la cartographie et j'ai préféré ce mot nuée féminin qui renvoie à la multitude, donc c'est de nombreux nuages forment une nuée, que quelque chose de masculin singulier qui aurait été un peu plus étroit, qui m'aurait obligé de cerner, de toujours parler du père d'abord avant de m'autoriser à parler d'autre chose.
Démarrait, on s'en souvient, par un noir complet de plusieurs longues minutes. Nuée démarre sur un nuage, sur une multitude de nuages ou de nuées. Qu'est-ce qui a changé entre le noir complet et ces multiples nuages?
La formation du nuage au début de la pièce nuée, métaphoriquement, on est encore dans une immersion qui va nimber, donc étymologiquement c'est vraiment nimber, c'est le nuage, qui va nimber tout cet archipel qui se pose sur le plateau dans nuée, ces différentes strates ou questions, celle de la guerre, celle de la langue que je ne parle pas, celle de ma propre formation, celle de mon corps noué au corps d'un autre, celle des gens marqués que mon père m'a laissé. Donc les différents niveaux, que ce soit encore une fois celui du legs paternel, des lieux, du corps, de la guerre comme arrière-fond de sa vie et de notre vie de famille berrichonne, j'ai l'impression que le nuage, c'est ce qui permet des apparitions multiples qu'on ne contrôle pas sur le plateau. C'est même la difficulté, c'est très difficile de contrôler une fumée sur un plateau, ça dépend de combien il y a personnes dans la salle, la chaleur qu'on émet tous ensemble, donc quand on répète, il n'y a pas beaucoup de gens en salle, et puis d'un coup le public est là et tout change, mais en même temps ça fonctionne avec notre idée de « on va donner cette situation, mais on n'est pas sûr de ce qu'elle va produire ».
La bande sonore qui est signée Pierre-Yves Massé peut évoquer la menace, les explosions, la guerre. J'ai vu, moi, en regardant la captation de nuée, un corps de femme, tout à coup faisant l'oiseau, puis la ballerine, puis se mettre à courir sous les bombes, puis s'accrocher par terre à une sorte de lampadaire, faire les ciseaux avec ses jambes, s'abandonner au sol, avec tout à coup cette phrase pendue juste au-dessus d'elle qui dit « J'ai passé beaucoup d'années à redresser ces jambes arquées que tu m'as léguées. Mes cuisses se touchent désormais, mais toi, tu as vraiment séché sur un tonneau. Tu ne peux pas croiser tes jambes dans un fauteuil. » Quelle phrase incroyable.
Mais effectivement, la question de la jambe arquée, quand on commence la danse classique, c'est vraiment un problème. Donc, voilà, j'ai encore cet exercice que je fais parfois, mais maintenant, en effet, elles sont droites. Et c'était toujours, non pas une blague, mais je me souviens très bien de ce père qui ne pouvait pas croiser ses jambes. Mais voilà, on voit beaucoup d'Asiatiques qui ont les jambes très arquées. Donc, il a fallu les redresser. La danse classique, c'est droit.
Au-delà de la blague pleine de tendresse, en même temps pour ce père, pourquoi les mots viennent à la rescousse du corps chez vous ?
Le texte vient à la rescousse, mais on va dire qu'il est une des parts du récit. Il élucide certaines choses précisément, et c'est ça que j'attends de lui. Et c'est une des pièces du puzzle, en fait. Mm-hmm.
I need another place. Will there be peace? I need another world. This one's nearly gone. Still have too many dreams. Never seen the light. I need another world, a place where I can go. I'm gonna miss the sea. I'm gonna miss the snow. The things that grow, I'm gonna miss the trees, I'm gonna miss the sound, I miss the animals, I'm gonna miss you all. I need another place. Will there be peace? I need another world. This one's nearly gone. I'm gonna miss the birds.
Nous sommes bien sur RFI, mais encore, où sommes-nous avec Anthony and the Johnsons que vous avez programmé en sol majeur, Emmanuel Wynne ?
Où est-ce qu'on est avec cette voix et ce texte « I need another world » ? J'aime énormément sa voix. Et puis la couverture de ce disque, c'est Kazuo Ono, le grand danseur buto, qui est décédé à l'âge de 103 ans. Et c'est Mathieu Dose, qui fait souvent aussi les bandes sonores de mes projets, qui m'a fait découvrir Anthony pour la pièce que nous préparions en 2012, en 2011, avec le danseur buto Akira Kasai. Donc pour moi, je suis dans l'Asie, alors que Anthony est, je pense, anglais, qu'il est entre homme et femme, et que sa voix est totalement androgyne, comme Kasai et comme les danseurs buto, ou comme le buto aussi travaille cette non-différenciation aussi dans le genre animal, minéral, humain. Les sexuations sont troubles. Et puis on est dans quelque chose qui dit qu'on a besoin d'autre chose, et après cette autre chose, il est possiblement là. Et il suffit parfois de pas grand-chose pour que ce « another world » il apparaisse. Donc on doit produire des choses nous-mêmes pour qu'il apparaisse.
Emmanuel Luyne, chorégraphe, toujours entre deux rivières, entre deux rizières.
ما هي أرضك السلم الكبير؟
Quel est votre sol majeur?
Donc j'entends sol au sens de soil, le sol. C'est celui qui est sous mon pied. Et parfois c'est le studio de danse, parfois c'est la terre, parfois c'est l'herbe, parfois c'est l'eau. Je suis pas très aquatique, mais parfois c'est l'eau quand même. Et parfois c'est le sol de l'Europe ou le sol de l'Asie. J'ai l'impression d'avancer dans la vie en aimant de plus en plus le sol qui est sous mon pied, quel qu'il soit. Ou alors si je ne l'aime pas, je le transforme ou je pars.
On a évoqué l'impact qu'a eu Trisha Brown sur vos pieds de chorégraphe et de danseuse, mais il n'y a pas qu'elle dans votre itinéraire. Il y a aussi, il faut regarder du côté du Japon, dont vous avez parlé plusieurs fois, parce que là-bas, il y a un théâtre qui vous intéresse. Éclairez-nous, s'il vous plaît, Emmanuel. Vous aimez le noir, mais il y a des limites. Qu'est-ce que le Bunraku ?
Le Bunraku, c'est un théâtre de marionnettes extraordinaire que j'ai découvert à Kyoto. Et le théâtre national de Bunraku se trouve à Osaka, donc à une demi-heure de train. C'est un théâtre où ce qu'il y a à regarder, ce sont des marionnettes géantes, c'est-à-dire elles sont grandes, elles font la moitié ou le tiers d'un corps humain. Et elles sont mues, manipulées par des manipulateurs tous couverts de noir. Ça fait penser aussi au chapeau du Ku Klux Klan, enfin noir. Sauf le manipulateur le plus expérimenté, qui a le droit de manipuler la main droite et la tête. Et donc, ce qu'il y a à regarder, c'est la marionnette. Mais on voit la marionnette et les manipulateurs autour, donc une espèce de chorégraphie pour faire que la marionnette ait toutes ses expressions de visage, ses yeux qui se baissent, du corps aussi, extrêmement précis. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur scène, mais sur la partie droite du plateau, s'allonge la scène, et on voit le joueur de shamisen, donc, qui est un luth très simple, donc une personne aussi assise, totalement impassible, les yeux quasiment fermés, et le conteur, qui lui fait tous les rôles. Il est en train de tout dire en changeant les voix. Et c'est véritablement l'œuvre moderne ou l'œuvre ouverte par excellence, parce qu'on voit, tout est dévoilé. On ne nous fait pas croire comme dans le théâtre français, ou pardon, le théâtre classique, pas le théâtre français, mais le comédien ressent ce qu'il est en train de me dire. Là, la marionnette, c'est clair qu'elle est mue par les autres, et que le texte provient d'une autre voix, et que le son est aussi à vue. Donc je suis tombée totalement raide de cet art.
Qui vous influence dans votre travail de chorégraphe ?
Oui, j'ai plusieurs fois eu recours au fait d'attacher les gens entre eux, dans le sens que certains manipulent d'autres, ou que cette façon que l'œuvre soit, qu'on envoie, on va dire, les ressorts, qu'on ne cache pas tout. Moi, j'aime beaucoup le processus visible. Donc, je dirais que le Bunraku m'influence à divers endroits.
Moi, tu m'aimes, moi, je t'aime, tu m'adores, je t'adore, même, c'est ça le vrai bonheur. Tu m'embrasses, je t'embrasse, toute peine semble vaine, nos heureux sont clairs, charmants et légères, c'est ça le vrai bonheur, le vrai bonheur. C'est celui que l'on donne, et c'est aussi celui que l'on voit.
Et la danse de Joséphine Baker avec sa ceinture de banane, est-ce qu'elle aurait pu avoir sa minute d'existence dans votre univers, Emmanuel Wynn ?
Eh bien oui, elle a eu une minute d'existence.
C'est intéressant parce que est-ce que la question derrière, c'est est-ce que vous accueillez tous les langages de la danse, même avec leurs préjugés ?
Bon, la figure de Joséphine Baker, elle est multiple. Elle est cette femme qui fait de la résistance en France. Elle est cette femme qui adopte beaucoup d'enfants.
Mais la danseuse ?
Cette danseuse, elle surjoue la danseuse noire avec ses bananes pour séduire son public. Alors, je ne sais pas si elle était dans un porte-à-faux, mais elle surjoue ce qu'on attend d'elle, tout en étant tout à fait, consciente et critique. Donc, je la trouve très forte, en dehors du fait qu'elle danse aussi très bien, qu'elle a sans doute utilisé aussi sa puissance de danseuse pour résister aussi, pour être... je pense qu'elle était admirée pendant la guerre, et en même temps, elle résistait. Donc... Oui, sa danse a de la place et on a appris cette danse dans la chorégraphie pour la pièce Tozai, qui veut dire d'est en ouest. Et c'est la description de l'ouverture du rideau au Japon. Et Tozai, c'est plutôt un cri. Mm-hmm. Tozai. Et ça s'en va hors de la coulisse. Donc c'est dans le Bunraku, pas que dans le Bunraku, mais dans le théâtre au Japon, il y a ce cri pour dire ça commence. Oye, bonnes gens, d'est en ouest, et le rideau s'ouvre. Et donc oui, dans cette pièce Tozai, que j'ai faite en 2014, dont le héros est un rideau, métaphoriquement, dans les plis du rideau, quand on défait le rideau, tombent des danses, on va dire, de tous les temps, dont Joséphine Baker... avec sa ceinture de banane.
Mais écoutez, j'ai envie de rester sur cette image de rideau. Tant pis pour Pierre Guyotat, qui aurait dû nous accompagner dans cet ensemble majeur, car c'est une voix qui compte beaucoup pour vous. Mais quand même, on ne va pas louper ce lâcher de rideau. Et j'aimerais le refermer, ce rideau, avec cette phrase intégrale que vous m'avez suggérée autour de nuée, enfin qui fait partie du dossier de presse où vous dites « Le sol comme épiderme du pays, le nuage comme horizon d'une acupuncture du territoire, mes pieds et les pas pour activer de nouveaux méridiens. » En refermant cet en sol majeur avec un petit peu de La Passion selon saint Matthieu de Bach, vénéré par notre invité Emmanuel Wynne. J'en profite pour dire merci à Emmanuel pour ce bel échauffement. L'émission réalisée par Laura Pinto avec la complicité de Caroline Filliette. À réécouter, vous le savez, en podcast sur Pure Radio. Théoraison Yasmine Chouaki, nous, on chauffe les micros et le fauteuil pour samedi prochain aux côtés de Justine Massika-Bihamba. Dans un instant, votre journal suivi de tous les cinémas du monde.